écoutez les gars, c'est bien ce que vous faites, mais quand on va sur votre site, on comprend rien quoi. Dès que je fais quelque chose, je me remets en question sur soit comment j'aurais pu mieux le faire, soit qu'est-ce que j'ai bien fait qui va pouvoir me servir pour d'autres aspects de mon business. Et le sirop diacone, il est très bon sur la molécule sucre, il a un indice glycémique qui est hyper faible, et il va pas élever la glycémie d'un diabétique, et il a pas d'impact négatif sur d'autres organes, comme peuvent l'avoir d'autres alternatives au sucre. Maintenant qu'on commence à passer des gros volumes et qu'on commence à passer des gros steps de développement, effectivement on est en train de créer toute la chaîne logistique et toute la chaîne de valeur au Pérou. New York, c'est une ville qui est exceptionnelle, c'est pas un mythe, t'es dans une énergie qui est assez ouf, t'es emmené dans une dynamique comme ça, où t'es tout le temps amené à te repousser, à te dépasser, fais les choses, va au bout de ce que tu veux faire, au pire tu tombes, et c'est pas grave, mais en fait t'auras appris, et si ça marche, ça sera une expérience qui sera encore plus extraordinaire que ce à quoi tu espérais.
Bienvenue sur Serial Entrepreneur. Je suis François Allais, fondateur du podcast, et depuis 2017, je pars à la rencontre d'entrepreneurs remarquables. Chaque entrepreneur possède une histoire unique, a dû prendre des décisions fortes pour réussir et a franchi un cap dans son aventure grâce à des rencontres. Dans ce podcast, j'aime mettre en avant toute la richesse et la diversité de l'entrepreneuriat en France à travers des conversations intimes, authentiques et sans bullshit. Chaque dimanche à 18h, retrouvez un nouvel épisode exclusif. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Serial Entrepreneur, le podcast des entrepreneurs. Aujourd'hui, je suis très heureux de recevoir Clément Poyade. Salut Clément, comment tu vas ?
Hello, écoute, ça va très très bien et toi ? Merci pour l'invitation.
Ça va super, je suis très content de te recevoir dans le podcast. On se connaît depuis quelques mois.
Ouais.
Tu es le cofondateur de Yacon & Co. C'est la première vraie alternative saine pour remplacer le sucre grâce au sirop de Yacon.
Ouais.
C'était quelque chose que je ne connaissais absolument pas avant de te rencontrer. Et du coup, j'ai très hâte de pouvoir discuter avec toi de tous ces sujets, parce qu'il y en a pas mal. Je commence tous mes épisodes avec une première question que tu connais peut-être, c'est dans quel environnement est-ce que tu as grandi ?
Yes, alors c'est marrant que tu me dises ça, parce qu'en plus on s'est rencontrés dans le cadre de Forbes, et l'environnement dans lequel j'ai grandi faisait un peu l'objet de ma candidature, et je pense que c'est un peu ce qui a tapé dans l'œil des personnes du jury. Moi j'ai grandi dans un petit village qui s'appelle Châtel-Montagne, qui est en Auvergne, dans lequel il y a 250 habitants, dans lequel il y a même plus de boulangerie, il reste un restaurant, et moi j'étais à 8 km de ce village, mon premier voisin était à 1 km, donc j'étais un enfant plein de liberté. J'ai grandi dans la campagne. Pour me déplacer, il fallait tout de suite que je fasse soit que je demande à mes parents, soit que je prenne ma moto à partir de 14 ans. J'ai adoré. Aujourd'hui, je suis à Paris. J'ai adoré ce que les deux mondes ont pu m'apporter et continuent de m'apporter. J'ai grandi dans une famille aimante, mes parents m'ont donné des valeurs qui sont ouf, qui font aujourd'hui de ce que je suis, ce que je représente, et j'en suis ultra fier au quotidien, donc c'est ce que j'essaye de véhiculer à travers Yacon & Co, ce que j'essaye de véhiculer à travers aussi le management qu'on a dans la boîte, que ce soit avec les personnes de Paris, les personnes d'Auvergne, parce qu'on a aussi encore une activité de production en Auvergne, et à terme avec le Pérou.
Ouais. Moi, avant de passer à Yacon, je veux te poser quand même quelques questions de départ. C'était quoi tes premières passions, justement, à Châtel-Montagne?
Alors moi, j'ai toujours été un gros sportif. Je pense qu'en fait, j'ai grandi dehors. Du coup, j'ai toujours été un gros sportif. J'ai jamais excellé dans un sport, comme j'ai jamais excellé dans une matière au niveau du boulot ou au niveau de l'école. Par contre, je suis un gros polyvalent. Ma passion, c'est d'aller faire un tennis. Ma passion, c'est d'aller faire un foot. Ma passion, c'est d'aller courir. Je crois que c'est vraiment quelque chose qui me caractérise. Je suis un peu un hyperactif aussi, donc c'est aussi ce qui me permet de donner un peu toute l'énergie que je peux avoir en trop. J'ai plein d'autres passions. Après, j'ai plein d'autres passions qui sont aussi, moi, je suis un j'aime les gens, donc j'aime mes potes, j'aime ma famille, j'aime vraiment passer du temps avec les gens, partager du temps avec les gens. C'est quelque chose qui me drive au quotidien, que je retrouve effectivement dans le sport, et notamment dans les sports co. Là, cette année, je me suis remis au foot. Ça faisait 10 ans que j'avais arrêté. Mon premier match, je me suis pété la cheville, donc malheureusement, ça a pas forcément été une bonne expérience, mais je vais retourner sur les terrains dans peu de temps. Et ouais, sport, les gens, et du coup, le monde sociable à travers toutes ces valeurs, ouais, que ça peut véhiculer.
Comment est-ce que t'as vécu tes études? Il était comment le Clément à l'école?
Ouais, bah j'étais assez bon élève. Je faisais pas l'effort de plus. J'étais pas le premier de la classe. J'aimais bien faire des conneries. J'aimais bien bavarder. C'était, je pense, un peu frustrant pour les profs, parce que j'ai toujours eu un peu des facilités, mais j'ai jamais eu 18, 19 de moyenne. Du coup, j'ai commencé dans un collège, dans un petit collège de campagne, et très vite, en fait, je suis parti de la campagne. Tous mes potes ensuite sont partis au lycée qui était le lycée de Vichy à côté. Moi, tout de suite, en fait, j'ai décidé de m'extraire un petit peu de ça et de pas suivre le chemin que tous mes amis d'enfance ont suivi. Je suis allé dans un lycée à Moulins, qui était un lycée en option sport, où, alors c'était pas un sport études, j'étais en internat, donc à 15 ans j'ai quitté le foyer, et je faisais en gros une dizaine d'heures de sport par semaine. C'était un moment exceptionnel. J'en ai encore des souvenirs qui sont assez dingues. Je faisais tout type de sport, mais par contre j'étais vraiment dans une dynamique d'apprentissage, que ce soit au niveau des études, au niveau de ma classe et au niveau du sport, qui était assez dingue. Après le lycée, donc j'ai eu un bac ES, je savais pas trop quoi faire. Je savais qu'il y avait quelque chose qui me passionnait, qui était grosso modo quand même le commerce, et toujours les gens, et on y revient. Du coup, j'ai décidé de faire une filière qui était assez généraliste, à Clermont. J'ai fait une filière en éco-gestion. Pareil, j'ai fait mes 3 ans en licence éco-gestion, où on va dire, je sortais pas du lot, jusqu'à ce que je découvre la com. Et en fait, c'est Thierry, qui est aujourd'hui mon associé, qui m'a fait découvrir la com. Thierry, c'est le meilleur ami de mes parents. Donc aujourd'hui, effectivement, on est associé, et il a monté plein de boîtes durant toute sa vie. Et il avait une agence de communication social media dans les années 2010. C'était toujours un très gros visionnaire, et il avait une agence de com à Paris, et j'étais en deuxième année de licence à Clermont. Et un week-end, il m'a dit, écoute Clément, viens faire un stage dans mon agence de com, viens voir ce qui se passe à Paris, viens voir ce que c'est la com, et ensuite tu restes 1 mois, 2 mois, et on voit ce qui se passe, quoi. Et du coup, je suis venu 1 mois à Paris, j'ai kiffé Paris, j'ai kiffé la com. Donc j'ai fini mes études, j'ai fini ma fac, j'ai passé mes concours aux écoles de communication. Donc j'ai fait l'ISCOM et sub de pub, j'ai eu les deux, et en fait, je sentais que entre les deux, il y en avait quand même une qui était plus commerce et une qui était plus créa, et donc c'est pour ça que je me suis dirigé à l'ISCOM, où j'ai été tout de suite baigné dans un environnement ultra pratique, et moi je suis quelqu'un de très pratique. C'est pour ça que la fac, ça me convenait pas trop, parce que c'était très théorique, rester les fesses vissées dans un amphi pendant 3 heures à écouter quelqu'un qui parle en monologue, c'était pas trop mon truc. Alors je m'y suis adapté, mais ce que j'ai adoré à l'ISCOM, c'est que en fait on avait très peu de cours théoriques, et on nous briefait le lundi matin, on créait des équipes, on avait une problématique et on devait construire soit une strate de com, soit une strate de communication de crise qu'on pitchait à la fin de la semaine. Donc ça t'apprend le travail en équipe, et aussi à comprendre un petit peu, toi, qui tu es dans une équipe. Est-ce que t'es plutôt un leader, est-ce que t'es plutôt un suiveur, est-ce que t'es plutôt quelqu'un qui sait écouter les gens, est-ce que t'es quelqu'un qui ne sait pas écouter les gens. Et ça a été assez précieux pour moi. Ouais, et en plus de ça, on liait le pratique à des stages et à de l'alternance, donc ce qui t'emmenait tout de suite sur le milieu du travail. Et j'ai fait une année de césure entre mon master 1 et mon master 2 à l'ISCOM, où je suis parti à New York. Ça n'avait jamais été fait encore. J'ai dû pousser l'école pour leur dire, en fait, moi j'ai pas fait d'Erasmus, parce que du coup j'ai pas fait mes 3 premières années chez vous, et j'ai besoin de partir. Donc ils ont été assez flexibles, et du coup ils m'ont dit bon bah ok, et je suis parti à New York pendant 6 mois. Donc j'ai trouvé un stage, c'est là que j'ai rencontré Raph. J'y allais pour apprendre l'anglais, j'y allais parce que j'avais aussi ce besoin de me prouver à moi-même que au-delà de venir à Paris, je pouvais vraiment aller dans un environnement qui était pas hostile, mais je suis suis arrivé le premier jour à New York, j'avais pas d'appart, quoi. Bon, j'avais mes parents m'avaient, j'avais des sous, j'étais pas dans le besoin, mais il fallait vraiment sortir les doigts pour aller trouver un appart et un appart qui convienne le plus rapidement possible.
C'est New York.
Ouais, c'est ça. Ouais, c'est New York. Bah, je me
from Châtel Montagne tout Paris tout
ouais,
New York.
C'est clair. C'est clair, mais je me revois vraiment dans ces rues de New York en me disant bon, par quoi je commence pour aller trouver un appart, quoi. Donc j'ai failli me faire entuber des milliers de fois. Finalement, j'ai réussi à pas trop me faire entuber. Je suis arrivé dans une coloc de 6 personnes qui était incroyable à Brooklyn. Et puis ensuite, après cette année de césure, j'ai fait un road trip en Amérique latine. Je suis retourné à l'école, à l'ISCOM, et j'ai terminé en alternance. Et j'ai eu mon diplôme. Ça devait être il y a 4-5 ans.
Ok, hyper, hyper intéressant. J'imagine que ton expérience à New York et ton expérience en Amérique latine,
ouais,
ça a été quand même quelque chose d'assez important pour la suite.
Ouais.
Est-ce que tu peux me raconter justement ce que tu retiens justement de cette année à New York et aussi de ce road trip en Amérique latine?
Ouais, carrément. Ouais. Bah, ce que je retiens de New York, c'est une ville qui est exceptionnelle. C'est pas un mythe. T'arrives à New York, en fait, t'es dans une énergie qui est assez ouf, que ce soit au travail, que ce soit les week-ends, t'as toujours des choses, t'as toujours plein de choses à faire, et en fait toutes les choses que tu fais, c'est souvent exceptionnel, et donc du coup t'es emmené dans une dynamique comme ça où t'es tout le temps amené à te repousser, à te dépasser, et je pense qu'au niveau du travail ça m'a vachement appris. Alors ça m'a appris aussi des choses assez basiques, hein. J'étais une bille en anglais, du coup aujourd'hui, alors je considère pas que je suis bilingue, mais je suis plutôt très bon en anglais, et je sais faire du business en anglais, donc ça, en fait j'ai eu une première expérience qui m'a emmené ces premières bribes, et entre temps donc j'ai fait effectivement mon voyage en Amérique latine. Donc là c'était road trip à l'arrache avec un de mes meilleurs potes, beaucoup de rando, lui c'est après il s'est fait il a traversé les Alpes pendant 4 mois à pied tout seul, donc on mêlé le stop, après on a loué un van, après on faisait du bus, donc on a fait Pérou, Bolivie, Chili, Argentine. On n'avait pas préparé grand chose, et du coup on y allait un petit peu au jour le jour, et ça, là pour le coup je crois que ça m'a appris la débrouille, et ce qui me sert aujourd'hui de manière assez poussée. Et ensuite après ce road trip, je suis rentré à Vichy et j'avais 3 mois à tuer, et en fait je me suis dit qu'est-ce que tu fous là, et du coup je suis reparti à New York en Esta, et j'ai bossé au Black dans des restaurants, et là en fait j'ai vraiment vu l'ascenseur social que proposait une ville comme New York, où j'avais pas de visa. Alors j'étais français, je parlais anglais, etc. Et je suis allé demander dans des. Alors j'ai fait 3 jours où j'ai prospecté des restaurants essentiellement français, mais pas que. Et en fait, j'ai trouvé du boulot pendant 3 mois où j'ai bossé en tant que serveur. J'ai ultra bien gagné ma vie. Je gagnais mieux ma vie que Raph, qui était consultante depuis 3 ans là-bas. Et donc là, pour le coup, ce que m'a appris cette expérience, une ville comme New York, c'est que en fait, fais les choses. Va au bout de tes choses, va au bout de ce que tu veux faire. Au pire, tu tombes et c'est pas grave. Mais en fait, t'auras appris. Et si ça marche, ça sera une expérience qui sera encore plus extraordinaire que ce à quoi tu pensais, ce à quoi tu espérais. C'était assez dingue. Et je crois que notre rêve maintenant, c'est un peu de retourner à New York pour lancer les States. Quoi.
Du coup, ta copine, elle y a vécu, donc c'est là où vous êtes rencontrés. Justement, le moment où tu retournes là-bas, est-ce que c'est aussi pour la revoir?
Ouais, carrément.
Ouais. C'est pas par hasard. Non. Pour aller bosser dans des restos.
Ouais, carrément. Ok. Ouais, cool.
Et donc après ça, tu reviens en France,
ouais,
avec elle?
Non,
pas du tout.
Elle reste là-bas. Elle
reste là-bas. Ouais,
elle reste là-bas. Moi, je reviens pour finir mes études. Et du coup, j'étais en alternance dans une startup qui s'appelle Do It, qui faisait de la régie pub. On installait des écrans publicitaires dans des Uber. Et en fait, on proposait aux clients de brancher son téléphone et de recharger son téléphone gratuitement. Et à partir du moment où ils le rechargeaient, on diffusait des spots publicitaires. Et ce spot publicitaire rémunérait aussi en partie le chauffeur. Donc, qui était une idée assez brillante. Et là, j'ai été du coup, en fait, c'était une équipe d'une quinzaine de personnes. Il y avait personne au market. Le CEO m'a dit, écoute Clément, ok, t'es au market, t'as carte blanche, quoi. Donc c'était assez dingue. J'ai tout construit. Pour le coup, j'étais en alternance. J'ai créé un rebranding. On a complètement changé de stratégie, d'image de marque, de positionnement. Et c'est moi qui ai emmené tout ça. Et à la fin de cette alternance, j'avais volonté de partir vers de nouveaux horizons, vers une boîte peut-être qui était un peu plus structurée. Et moi, j'ai toujours. C'est marrant parce qu'en plus après j'ai entrepris, mais j'ai toujours recherché un peu un mentor. Je l'ai jamais trouvé encore, mais j'ai toujours eu cette volonté.
Encore le temps.
Ouais, c'est, ouais, j'ai encore le temps. Ouais, mais j'ai toujours eu cette volonté de trouver un mentor. Et donc là, en fait, j'étais, je faisais tout seul. J'avais zéro feedback. C'était incroyable parce que j'avais une confiance qui était assez folle. Mais par contre, j'avais personne pour me dire ah bah attends, là, tu ferais mieux d'aller peut-être potentiellement un peu dans cette direction. Là, je pense que si t'emmenais ce sujet d'une manière différente, ce serait peut-être un peu différent. Et donc, j'avais une volonté de partir dans une boîte qui était un peu plus structurée. Et j'avais trouvé un poste et en fait je dis au CEO écoute voilà je veux partir à la fin de mon alternance et il me dit non moi j'ai pas du tout envie que tu partes en gros c'est je te propose quelque chose alors ça va changer un petit peu de ton scope qui était à la base le market et la com et il m'a mis COO donc j'avais en gros géré toute la partie commerciale sur tous les grands comptes et ensuite j'avais une casquette managériale avec les équipes support alors qui était pas évidente parce que c'était des personnes qui avaient souvent 10 ans 15 ans de plus que moi et j'étais un peu parachuté là donc ça a été des moments qui étaient toujours pas hyper simple et je pense que j'ai eu un peu ce syndrome de l'imposteur où j'essayais toujours de me justifier.
À un moment donné aussi t'es jeune, du coup je pense que le syndrome de l'imposteur c'est très relié aussi.
Ouais.
Même si au final bah, à cet âge-là t'as quand même pas mal d'expérience.
Ouais.
T'es hyper débrouillard. Enfin voilà, t'es parti de ton petit village entre guillemets à Paris, ensuite à New York. Enfin du coup t'as quand même emmagasiné plus ton road trip en Amérique latine.
Ouais.
Je pense que t'as gagné en maturité de fou sur cette période.
Ah, c'est clair. J'ai gagné en maturité de fou. Mais ouais. Après, j'ai mené mon bout de chemin, hein, comme je pouvais. J'ai mené ma barque. Je pense que j'ai fait beaucoup de conneries. Et j'étais, je pense, pas aussi posé. Ce syndrome de l'imposteur faisait que j'étais parfois, je pense, un peu sur la défensive.
Mmh.
Et que quand on m'emmenait une problématique, j'avais pas la bonne manière de réagir. Ce qui fait que j'ai potentiellement, je pense, un peu pu braquer des gens à des moments où là, aujourd'hui, j'ai plus du tout ce syndrome de l'imposteur avec nos équipes. Et en fait, ça se passe très bien. Et quand il y a un feedback, bah, je le fais pas à chaud. Si je suis énervé, je prends mes 10 minutes. Et ensuite, j'essaye d'être dans un feedback plutôt constructif. Donc ouais, non, j'ai été parachuté là. Ça m'a servi de dingue. J'ai fait plein de conneries. C'est des conneries que j'essaye de pas refaire, j'en referai. Mais
c'est partie du jeu.
Exactement, ouais.
Si on n'en fait pas, c'est qu'on fait rien.
Ouais, c'est ça, exactement.
Est-ce que c'est après que tu crées Yacon ? En novembre 2020,
ouais.
Si je dis pas de bêtises. Exactement. Donc en novembre 2020, on est quand même à la fin d'une année particulière,
ouais.
En plein Covid, entre guillemets, après le confinement, etc.
Ouais.
Qu'est-ce qui fait que tu crées Yacon ? Et accessoirement avec ta copine,
ouais.
Et avec Thierry.
Ouais, bah en fait c'est pour le coup vraiment une histoire de trois personnes. Moi j'ai toujours su que je voulais entreprendre. Mes parents sont entrepreneurs, ils m'ont toujours beaucoup inspiré là-dedans. Je savais pas quand est-ce que j'entreprendrais, je savais pas sous quel format, sur quelle idée, comment, qui, avec quoi. Et en fait ça s'est fait effectivement beaucoup plus vite que prévu. En fait on se retrouve à l'été 2019, donc Thierry, Raphaëlla et moi donc dîner en Auvergne, et donc Thierry nous parle, en fait, il est diabétique de type 2, il a 62 ans, c'est pas quelqu'un qui boit du coca ou qui va au fast-food tous les 4 matins, tu vois, et pourtant, diabétique de type 2. Et donc, on parle du sujet du sucre de manière un peu plus profonde. On était tous les trois un peu reliés au sujet du sucre. Raphaëlla avait eu beaucoup de problèmes de digestion quand elle vivait à New York, dû à une consommation une surconsommation de sucre, derrière une surconsommation même de fructose. Moi, je suis quand même un gros sportif, donc je suis un peu un féru de nutrition. Et on échange sur ce sujet, et là se posent plein de problématiques liées au sucre, le diabète, le surpoids, les maladies cardiovasculaires, les cancers. Et en fait aujourd'hui moi ce que je dis c'est que je ne connais pas une personne qui essaye de consommer moins de sucre. Et donc en face de toutes ces problématiques on met un marché, le marché des alternatives au sucre, qui est un marché qui est énorme, qui fait des milliards et des milliards, c'est 12 milliards d'euros, il fait plus 6% par an et il a prévu de faire plus 6% par an au moins jusqu'à 2032.
C'est énorme.
Et en fait c'est énorme et tu te retrouves avec, si tu creuses vraiment ou ces alternatives, en fait il n'y en a aucune qui fait le job. Soit tu te retrouves face à l'ultra transformation, donc entre le cancer et le diabète t'as pas trop envie de choisir, soit tu te retrouves face à des produits qui sont assez désagréables en termes de goût. Je sais pas si tu te souviens du Coca Green qui avait sorti un Coca à la Stevia.
Ouais.
En vrai la campagne de com était ouf, le fait de l'appeler Coca Green c'était une idée
smart,
lumineuse à la Coca quoi, mais par contre le produit il a fait 6 mois en rayon parce que il était pas bon. Et ensuite t'as des alternatives naturelles qui existent, sirop d'agave, sirop d'érable, sirop de date, miel. Alors on essaye d'y aller un peu avec des enfin de manière un peu un peu maline, parce que notamment sur le miel, c'est un produit qui est très apprécié, surtout des Français. Nous, ce qu'on dit, c'est que c'est moins pire qu'un sucre ultra transformé ou que de l'aspartame, mais sur la molécule sucre, en fait, ça fait pas le job. Et si tu manges du sirop d'érable ou du miel tous les 4 matins, ou en tout cas tous les jours, bah tu risques de développer toutes ces maladies que je viens de dire auparavant, quoi. Donc on a décidé de monter la boîte à partir de là. Ça a commencé avec un groupe WhatsApp, un groupe email. À la base, c'était... Enfin, Thierry, je pense, avait cette volonté plutôt de le faire avec moi. Et en fait, il y avait Raph qui était là. On l'a mis dans le groupe WhatsApp, dans le groupe email. On n'avait pas prévu d'entreprendre en couple. Et finalement, ça s'est fait. Et ça s'est fait très bien. Alors, c'est pas du tout quelque chose sur lequel on communique. On n'a pas envie de communiquer dessus et on reste hyper discret. Je pense même que je vais me faire tirer les oreilles quand...
Oubliez ce que vous venez de voir. Cette clair. Information est fausse.
Non, mais parce qu'on se protège aussi. Je pose pas un
peu. Bien sûr.
Là-dedans et on n'a pas envie un jour de que notre couple repose sur le fait qu'on soit entrepreneur, quoi.
Ok, hyper intéressant. Du coup, je comprends la genèse du projet, ouais. Justement avec Thierry notamment. Comment ça se passe un peu les grandes étapes de fin 2020 justement, ouais. À aujourd'hui, parce qu'au final c'est une aventure assez récente. J'imagine que le ressenti, ouais. Il est beaucoup plus long que, ouais. Ça.
Carrément.
Comment ça se passe tout ça?
Alors déjà, nous, à la base, on voulait lancer plus tôt. En fait, on a créé notre compte Instagram en décembre 2019. On n'avait pas de produit, on n'avait rien. Donc, on a commencé à communiquer sur le sujet. C'était sur le sujet de la nutrition plutôt que sur le sujet du sucre. On se dit, ok, on est en décembre, on va lancer une campagne Ulule. On va lancer une campagne Ulule, on se dit, en mai-juin 2020. Donc, on se met à la préparer, etc., etc. On est contacté par la grande épicerie de Paris qui veut nous intégrer à la grande EP, qui veut qu'on aille sur le stand de Vivatech, sur le stand de la grande épicerie Vivatechnology, qui a prévu de faire un plan média incroyable notamment sur nous. Donc, on se dit, putain, incroyable, lancement de ouf. Mi-mars, boum, Covid. Donc, le deal avec la grande épicerie pète, parce que pas de Vivatech, notamment, grande épicerie fermée, donc ils arrêtaient toutes leurs opérations promotionnelles. Donc, on a décidé de prendre, du coup, un petit peu plus de temps, un petit peu plus de recul. Je pense qu'on a bien fait, parce que je pense que si on avait lancé en mai 2020, on n'était pas du tout prêt et on serait pris potentiellement une grosse claque. Et du coup, on a décidé toujours de commencer avec une campagne Ulule, donc qu'on a lancé effectivement en novembre 2020. On était plutôt à l'époque, on était plus large, on était moins concentré sur le sirop diacone. On avait plein de produits, on était vraiment sur tous les aspects de la nutrition. Et donc on lance notre campagne Ulule qui fonctionne bien. Alors on s'attendait à faire une campagne Ulule à la respire. Ça n'a pas été le cas. Malgré tout, on a fait quand même une campagne assez incroyable pour le monde de la food. Je crois qu'on a fait entre 600 et 700 préventes, ce qui est assez ouf. Ensuite, on fait notre première prod donc en avril, donc entre novembre et avril, on débarrasse une partie de la grange de Thierry, on remet ça aux normes, donc c'est nous qui avons fait tous les travaux, on commande des petites machines au niveau artisanal, on a décidé, nous, de rien sous-traiter dès qu'on s'est lancé. Tous les gens, enfin pas tous les gens, mais notamment une personne qui est Augustin, de Michel Augustin, nous avait dit très tôt, la valeur ajoutée de votre boîte, oui, elle peut être dans votre marque, mais à long terme, elle sera dans vos assets industriels et dans le fait que vous soyez maître de votre propre production. Donc, on a décidé tout de suite de tout maîtriser. Alors, on l'a fait de manière hyper artisanale au début, avec plein de galères, avec plein de conneries, bien évidemment, qu'on a fait. Et donc, une fois qu'on a fait tous ces travaux, acheter les machines, acheter la matière première, on lance notre première prod en mai 2021. Donc début 1er mai 2021, je crois, on envoie toutes nos commandes de la campagne Ulule et à partir de là, on ouvre le e-commerce et on y va du coup step by step jusqu'à là où on en est aujourd'hui. Alors on a supprimé plein de produits, on a fait rentrer des personnes au capital, on a fait rentrer une advisor notamment qui est Elsa Hermal, qui est une ancienne d'épicerie,
oui,
qui nous a
connaît de nom, ouais.
Ouais, qui nous a beaucoup éclairé sur la stratégie marketing. Elle est très très rentre dedans et elle a pas peur de dire les choses. Et donc, on l'a fait rentrer très tôt dans notre boîte. Ça n'avait rien à voir avec...
grand entrepreneur spécialisé food.
Ouais,
si je
spécialisé
dis pas de
food et une brute en marketing. Et en fait, à un moment donné, elle nous a dit, écoutez les gars, c'est bien ce que vous faites, mais quand on va sur votre site, on comprend rien, quoi. Vous essayez de faire des oméga 3, des protéines, du sans sucre. Vous faites des produits pour le petit déjeuner. Vous faites des produits pour le goûter, pour l'apéro. Vous faites des huiles.
C'est comme quand tu vas dans un resto et que t'as 36 menus et tu comprends rien, quoi.
Exactement. Donc, elle nous a dit, recentrez-vous. Donc, ça a été une grosse décision. Donc, on a décidé de supprimer 70% de ce qu'on commercialisait et de se concentrer vraiment sur le sirop diacone. Et donc, oui, de commercialiser des produits au sirop diacone et du sirop diacone pour le consommateur final qui va pouvoir mettre dans son thé, son café, ses yaourts nature, faire des gâteaux, enfin, qui va pouvoir intégrer à tout son quotidien. Mais en fait, on a décidé d'aller encore un peu plus loin dans l'industrialisation où, en fait, on s'est dit, là, le yacon et donc le sirop diacon, il y a un marché qui est naissant, on a un produit qui est extraordinaire et où il y a tout à faire. Donc, si on arrive à remonter toute la filière et à remonter toute l'industrie, le jour où ça explose, on aura tellement d'avance qu'il y a vraiment moyen de faire un business qui est énorme et d'aller, nous, notre objectif vraiment à terme, c'est d'aller chatouiller les volumes, notamment du sirop d'agave. C'est des très, très gros business. Et c'est aussi ce qui fait qu'on a décidé maintenant de ne pas se concentrer que sur le fait de construire une marque à destination du consommateur final, mais aussi, une fois que la filière sera créée, de pouvoir proposer du sirop diacone aux industriels pour qu'à leur tour, ils l'intègrent dans leurs produits manufacturés, dans des biscuits, dans des yaourts, dans des boissons. Et qu'en fait, le sirop diacone intègre le placard de tous les Français. Et ça, c'est, enfin, Français, Européens et à terme consommateurs au niveau mondial. Et ça, c'est notre mission d'entreprise. Alors, à travers notre pot de sirop diacone Yacon & Co, mais aussi à travers potentiellement tes biscuits de chez Petit Lu, tes yaourts de chez Danone, etc., etc., quoi.
Oui, l'intégrer naturellement dans tous les produits du quotidien, finalement.
Exactement.
Ouais. En remplaçant du sucre. Comment se fait-il que le yacon ne s'est pas démocratisé avant?
C'est une bonne question. En vrai, j'avoue que nous, parfois, on se pose aussi encore un peu la question. En fait, la structure au Pérou est vraiment... La structure de la filière au Pérou est hyper artisanale.
Pour contextualiser, du coup, ouais. c'est une plante.
Ouais,
ça
ressemble à une grosse patate douce. Okay. Que tu presses le jus de ce tubercule, ensuite que tu concentres. Alors il y a un vrai savoir-faire industriel dans la concentration. T'obtiens donc du sirop diacone. Le Pérou est la mère patrie du sirop diacone parce que mère patrie des superfoods, mère patrie de la tubercule. C'est le pays de la patate. Hein.
Ça veut dire que là-bas, c'est déjà une alternative au sucre qui est connue ou pas encore.
Qui fait que de l'export. Tout ce qui est fabriqué est voué à l'export. Alors c'est tout petit, hein, c'est un tout petit marché. Ouais. J'ai pas les volumes du sirop d'agave, mais le sirop diacone, tu vois, c'est entre 100 et 150 tonnes. Là, les deux ans qui ont précédé, donc 2022-2023, ils ont exporté entre 100 et 150 tonnes de sirop diacone. Nous, on a déjà fait 20 tonnes là cette année en 2023. Donc ça veut dire qu'on représente déjà quasiment 20% du marché mondial.
Cool.
Ce qui est ouf. Et donc j'ai mangé ta question. Excuse-moi, du coup.
Non, mais du coup, tu as répondu. Enfin, la question, c'était...
Ah oui, comment ça se fait que...
Pourquoi, justement, ouais. Ça n'a pas pété avant, tu vois.
Ouais, parce que effectivement, structure de la filière hyper artisanale au Pérou, et en fait, confronté, quand tu l'achètes en France, à des problèmes de qualité. En fait, comme il n'y a pas vraiment de vrai fabricant de ouais. sirop diacone, où tu as un sirop diacone qui est standardisé et où tu as une filière qui est industrialisée, nous, on se retrouve encore à refuser des palettes, soit parce que le sirop est trop amer, soit parce que dans le process, dans le savoir-faire industriel, on a bâclé des étapes et du coup, on a un produit qui nutritionnellement n'est pas OK. Et surtout, on a des problèmes de coûts qui sont dus à des multiplicités d'intermédiaires qui chacun prend sa marge et où tu te retrouves à un produit qui est 10 fois plus cher qu'un kilo de sucre. Alors, on sera jamais compétitif, en tout cas pas avant un bon bout de temps avec le sucre, mais en fait, si tu regardes les rendements au champ, il n'y a aucune raison que ce soit 10 fois supérieur au sucre. Nous, notre objectif, c'est plutôt d'être 2-3 fois supérieur au sucre. Et donc là, tu arrives avec un produit qui est attractif, qui est compétitif et où tu peux du coup aller chercher une grosse pénétration de marché.
Donc j'imagine qu'il y a une chaîne logistique ultra complexe.
Ouais. Ouais. Là, on est en plein dedans là. On a commencé avec une marque parce que, comme tu le dis, on partait d'une feuille blanche, donc on avait besoin de démocratiser ce produit, démocratiser le sirop diacone et lui emmener de la sexiness en France, à terme en Europe, mais d'abord en France. Et là, maintenant, effectivement, on est dans la phase où on est en train d'industrialiser. On a fait ces deux ans en passant avec des fournisseurs, en essayant de trouver des fournisseurs qui étaient stables, qui avaient une qualité qui était plus ou moins irréprochable. Là, maintenant qu'on commence à passer des gros volumes et qu'on commence à passer des gros steps de développement, effectivement, on est en train de créer toute la chaîne logistique et toute la chaîne de valeur au Pérou. Donc là, on est en train de créer notre filiale, on achète les machines là, je passe cette semaine ou la semaine prochaine, et on crée une usine là-bas. Donc là, on crée une usine au Pérou. Dans 6 mois, on a 20 personnes qui bossent pour nous au Pérou. Ça va être. Je pense que quand je vais arriver là-bas, je vais prendre une claque monumentale. Mais du coup, c'est fou. Et on est en train de créer nos associations de producteurs. Et donc en fait, fait, là-bas, on aura la filiale qui sera entourée par différentes associations de producteurs pour pas être dépendant d'une association qui, du jour au lendemain, peut te péter dans les mains pour X ou Y raison. C'est des associations de producteurs qu'on va accompagner dans leur labellisation bio, dans le fait d'aller chercher des fertilisants bio, etc., etc., qui peuvent pas faire tout seuls parce qu'ils sont pas structurés. Et ensuite, nous, on leur rachètera tout leur stock. On le transforme et bah soit il est commercialisé à travers Yacon & Co et des produits Yacon & Co, soit il sera vendu à des industriels pour qu'ils l'intègrent dans leurs produits.
Ok, donc des enjeux très stylés dans les prochaines semaines, les prochains mois.
Ouais, exactement. Ouais, bah on s'associe avec une péruvienne là-bas, donc on a beaucoup de chance d'avoir trouvé cette personne qui s'appelle Rosa, qui fait du sirop d'Yacon depuis 20 ans et qui du coup a tout le savoir-faire technique au niveau agronomie, au niveau production, mais qui avait pas de capital et qui avait pas le savoir-faire de l'export. Et en fait, il y a quelque chose dont on s'est rendu compte quand on est allé au Pérou, c'est qu'en fait on n'a pas la même vision du sirop d'Yacon, et eux voient le sirop d'Yacon comme un superfood et comme un superfood qui est extraordinaire, et comme il est extraordinaire, il mérite de rester sur un marché de niche qui du coup est à un prix très élevé. Et nous, quand on leur dit qu'on veut l'emmener au volume du sirop d'agave, ils disent mais les gars, ça n'a aucun sens, le produit est tellement mieux que le sirop d'agave. Bah, on leur dit justement, en fait, quand tu regardes les rendements au champ, tu peux avoir un prix à terme qui est plus ou moins compétitif avec le sirop d'agave. Du coup, tu as un produit qui est bien meilleur nutritionnellement parlant. Bah, en fait, tu peux faire une filière qui est juste stratosphérique, quoi. Et donc, on leur emmène cette dynamique-là et on les sort du marché de niche. Alors, je pense que ça les a un peu brusqués au début, et c'est là où Thierry est très bon, parce que c'est lui qui gère cette partie. Il a pas le même profil que nous. Avec Raph, on est des bulldozers, et si t'es un bulldozer au Pérou, ça passe pas, quoi. Soit tu perds patience, soit tu te prends la tête avec les gens, soit tu te fais enfler. Et Thierry, lui, a monté des business à Madagascar, il est né en Afrique, et donc il a cette capacité à évoluer dans un environnement hostile, enfin pas hostile, mais en tout cas hostile par rapport
en tout cas différent de ce qu'on connaît, quoi.
Ouais, par rapport à nos valeurs très occidentales. Et c'est là où il est énorme, et du coup là il part s'installer pendant un moment au Pérou, donc c'est aussi un autre challenge pour lui.
Ok, très stylé. On n'a pas parlé des propriétés du sirop d'Yacon.
Ouais.
Du coup j'ai vu ça sur votre site. C'est 4 fois moins de sucre, 2 fois moins calorique et plus 54% de fibres prébiotiques.
Ouais.
Du coup c'est un produit vraiment
assez
impressionnant, quoi.
Ouais, en fait, moi ce que je dis, c'est que le sirop d'Yacon, il est très bon sur la molécule sucre, donc il a un indice glycémique qui est hyper faible, et il va pas élever la glycémie d'un diabétique, et il a pas d'impact négatif sur d'autres organes, comme peuvent l'avoir d'autres alternatives au sucre. Et en fait, au-delà de ne pas avoir d'impact négatif sur d'autres organes, il a même un impact positif, et notamment sur le microbiote intestinal, parce qu'il est très riche en fibres, et donc il coupe le tout. Le seul gros challenge, c'est effectivement de le démocratiser, et de baisser le prix, parce que même encore aujourd'hui, moi, tu vois, un pot à 9,90€, alors je suis content et ça marche très bien, mais je sais très bien que pour aller dans le supermarché, tiens, de Châtel-Montagne, même si on n'a pas, mais du Belle-Montagne, si on veut que le sirop d'Yacon soit un succès dans ces endroits-là, il va falloir baisser le prix pour que le produit soit
beaucoup accessible, grand public.
Ouais, exactement.
C'est quoi un peu justement les objectifs futurs? Et juste avant de répondre à cette question, aujourd'hui, Yacon & Co, on peut en acheter où?
Alors Yacon & Co aujourd'hui tu le trouves sur le site internet, donc yacon.co, tu trouves donc du sirop d'Yacon. On a aussi décidé, pour démocratiser le produit, de le mettre dans des pâtes à tartiner.
Okay.
Donc on a aussi 2 pâtes à tartiner, on a lancé des chocolats qui sont ici, qu'on a lancé pour Noël avec un chocolatier. On a toujours été très fort sur le digital. On s'est lancé sur le digital avec Ulule, donc on continue d'être en grosse croissance sur le digital. Ça représente encore 50% de notre chiffre d'affaires. Malgré tout, alors c'était la mode des DNVB quand on s'est lancé. Et nous, malgré tout, dès le début, on s'est dit on va pas essayer d'aller sur un modèle de DNVB. On va plutôt essayer d'aller sur de l'omnicanal. Et donc on a développé le réseau bio. On a préféré aller dans le réseau bio dans un premier temps parce que le consommateur du bio est quand même plus enclin à payer un petit peu plus pour avoir un produit qui est sain, etc., et plus ouvert sur ces questions de nutrition. Et donc la première année, je me suis tapé toute la France avec la Ford Fiesta pourrie de mes parents qui a 220 000 km, où je me suis fait, je sais pas combien je me suis fait de bornes, mais je me faisais des road trips où je partais pendant 10 jours. Pendant 10 jours, je ponçais un territoire, je me faisais 150 ou 200 magasins, et petit à petit, on a commencé à ouvrir des magasins bio. Donc là aujourd'hui on est présent dans 700 magasins bio avec plusieurs références nationaux. Donc on a Naturalia, Sobio, Bio c'est bon. Pour les personnes qui sont en région, on a Satoriz aussi, c'est en Auvergne-Rhône-Alpes et dans le PACA. On a une centaine de Biocop, et après on a les plateformes, donc Greenwiz, Casidomi, etc., quoi.
Ok, trop cool. Il y a un truc, il y a un sujet dont on a parlé au tout début,
ouais.
Mais très rapidement,
ouais.
Mais qui est quand même un sujet qui a marqué aussi un peu ton année.
Ouais.
C'est le prix sortie under sortie, ouais, de Forbes France. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés.
Exactement.
Comment est-ce que ça s'est passé et comment tu as vécu justement cette annonce, un fameux mercredi matin,
ouais,
en avril dernier.
En vrai, j'ai postulé. Je me suis dit bon, je tente ma chance. En vrai, j'y croyais pas trop. Quand j'ai postulé, mon onglet est resté ouvert pendant 3 semaines avant que vraiment je me mette à le faire. Je l'ai fait parce qu'il y avait pas mal d'entrepreneurs que j'adorais qui étaient passés par là. Et donc, écoute, j'ai tenté ma chance en étant assez honnête, transparent et en fait en étant qui je suis. De toute façon, je sais pas faire semblant. Donc j'essaie d'être un maximum qui je suis et de pas faire semblant. C'était au mois d'avril, je crois.
Début avril.
Ouais. Du coup, début mars ou mi-mars, je reçois un coup de fil d'une personne de chez Forbes. J'étais en vacances à Séville, c'était complètement sorti de ma tête, qui me dit « Oui, bonjour, c'est Forbes, on aurait besoin d'une photo de vous, s'il vous plaît. »
Ah, mais j'ai eu ça moi aussi, mais j'avais pas capté.
Et moi, en vrai, tout innocent, je dis « Ok, bon, bah, je vous l'envoie et je raccroche. » Il y avait Raph qui était en face de moi, elle me dit « Non, mais attends, t'es pris du coup ?» Je dis « Bah non, je pense pas. »
Attends, je viens de réaliser.
et du coup, je sais plus pourquoi elle me rappelle. Et donc là, je la cuisine un peu. Je dis « Mais du coup, c'est que je suis pris. » Et elle me dit « Non, alors là, on a fait une première sélection. Du coup, il y en a 80. On en a présélectionné 80. Et c'est au cas où vous êtes pris.
Ce qui était peut-être vrai.
Mais en vrai, je pense pas. Raph, elle me disait « Mais arrête. » Et du coup, ça a duré 2 semaines. Et donc moi, je m'auto-persuadais que j'étais pas dedans pour ne pas avoir de déception.
Moi, tu vois, j'étais vraiment hyper naïf sur le truc. J'ai envoyé ma photo, je fais bon, bah, je pense qu'ils demandent ça à tous les candidats, tu vois, logique. Et en même temps, s'il y a 600, 700 personnes qui candidates, tu demandes 600, 700 photos, c'est un peu chiant.
Et puis tu l'aurais uploadé quand t'as postulé,
mais
surtout.
Mais du coup, ce qui est cool, c'est que ça m'a pas du tout stressé, parce que déjà, j'attendais absolument rien.
Ouais.
J'ai postulé en last minute, sans aucune attente, etc. Mais c'est marrant, j'ai pas du tout eu le même comportement.
Et bah moi, j'étais aussi naïf que toi. C'est Raph qui m'a dit, ouais, c'est bon. Oui, 2 semaines, elle me disait, c'est bon, arrête de faire genre tu doutes, en vrai tu l'as. Et du coup, effectivement, bah tu vas en kiosque le matin, ou alors je sais plus si c'est le post Instagram, et boum quoi. Et...
Moi c'était le post LinkedIn.
Ok.
J'ai vu la notif du post LinkedIn, j'ai fait, ok, c'est cool.
Et ouais, c'est cool, ouais. Franchement, c'est cool parce que... bah en vrai c'est, alors ça a pas changé ma vie non plus, mais en fait ça t'assoit quand même, ça assoit, on était en pleine levée de fonds en plus, donc ça assoit une crédibilité, une légitimité, une notoriété. T'es invité à des événements de ouf, enfin tu vois, c'est From Châtel Montagne tout Festival de Cannes aussi. 2 semaines après, on était au Festival de Cannes,
c'est là qu'on s'est rencontrés.
Ouais, exactement, dans une villa qui était juste exceptionnelle. Ça te permet de rencontrer des personnes que t'aurais jamais rencontré sans cet événement. Là on avait la soirée encore qui était ultra quali, enfin du début à la fin, en fait je trouve qu'il y a un fil rouge de qualité de rencontre, et en plus j'ai la sensation qu'ils vont encore aller un petit peu plus loin dans ce côté rencontre réseau, c'est fou, et je recommande à tous ceux qui ont moins de 30 ans, de le faire. Alors c'est pas le faire pour l'ego, en fait. Et en fait, déjà, un, tu le fais pour ta boîte parce que ça va propulser ta boîte, et c'est le faire parce que ça t'ouvre quand même des portes qui sont assez ouf.
En fait, ce qui est fou, c'est que ça crée des connexions assez improbables avec des gens qui potentiellement vont devenir des amis, ou peut-être que ça va créer du business, peut-être que ça va créer d'autres trucs. Et il y a aussi le fait que évidemment, ça t'apporte de la notoriété.
Ouais.
Ça t'apporte de la légitimité aussi, de quelque chose qui est totalement externe à ton écosystème. Donc, tout ça fait que, en fait, ça a une puissance assez folle et qui est, je pense, très sous-estimée des gens qui sont pas dedans, tu vois.
Ouais.
Et du coup, je suis très aligné avec ce que tu m'as dit. On va pouvoir passer à la partie bilan de cette aventure, même si, évidemment, on est au début, entre guillemets. Quel a été le moment le plus difficile de ton aventure entrepreneuriale?
Je pense que c'était la première année où en vrai on connaissait personne, tu vois. Moi je suis vraiment arrivé sur Paris, je connaissais personne. On lançait un projet, on avait un projet qui balbutiait, comme je te disais. Je pense que même mes potes d'enfance et ma famille me disaient qu'est-ce qu'il est en train de faire. Oulala, c'est con, ça partait pas trop mal pour lui, mais là il est en train de faire un truc un peu bizarre. On galérait parce que du coup on produisait dans la grange de Thierry, enfin pas dans la grange de Thierry, c'était quelque chose qui était aux normes, hein, c'était clean, il y a pas de problème. Mais en fait on passait notre temps entre ok, on est à Paris, on essaye de développer le business, mais on n'a pas encore cette reconnaissance. Quand quand on n'est pas à Paris, on est en Auvergne pour aller produire au lab de manière hyper artisanale, où on se faisait des journées de fou furieux. Et donc cette première année où on a ramé quoi. Mais parce que en fait on se cherchait. C'est aussi ce qui nous a permis de nous repositionner, de nous remettre en question, de nous challenger, de nous faire challenger. Et d'ailleurs, je pense que c'est à peu près au moment de Forbes où on a réussi à lever, on a commencé à avoir une vraie bonne reconnaissance, et en fait ça y est, les gens ont compris là où on allait et ils se sont dit ah ouais, en fait effectivement il y a un truc qui est assez stylé à la clé, s'ils y arrivent. Alors je pense qu'aussi on a plus confiance en nous, je pense qu'on est plus serein dans notre discours et donc tout ça y participe. Mais on a pas eu de très grosses galères. On s'est pas dit à un moment waouh, là en fait le business est en jeu, je sais pas si demain on va survivre. Mais cette première année où on a galéré, on se cherchait, fait aussi que on s'est soudés tous les trois et qu'en fait on a un lien qui est assez dingue, une confiance qui est assez dingue entre nous trois et une relation qui est folle. Mais ouais, non, je crois que c'est cette première année un peu de galère où tu te cherches, où tu sais pas trop si ça va fonctionner, où t'as des retours clients qui sont pas toujours fous, mais en fait c'est de la remise en question et ça nous a permis d'être là où on en est aujourd'hui quoi.
Et puis sur un sujet qui en plus était pas du tout démocratisé et qui du coup forcément d'un point de vue extérieur, enfin tu peux te poser des questions quoi,
ouais,
surtout sur les premiers mois.
Et puis c'est long.
Ouais.
C'est long d'évangéliser un marché, de démocratiser un produit.
C'est pour ça que je dis, tu vois, 2020, en vrai, c'est assez récent.
Ouais.
Mais le ressenti, moi pareil, 2020, j'ai l'impression que c'était il y a 10 ans.
Ouais.
Genre, c'était une autre vie pour moi, tu vois.
C'est clair.
donc j'imagine, l'effet long, tu vois, de quand t'es dedans, quoi. L'autre question bilan, c'est quel a été le moment le plus marquant positivement de ton aventure à l'inverse du moment le plus difficile?
Le moment le plus marquant de mon aventure, c'est une très très bonne question. Qu'est-ce que ça pourrait être? Le moment le plus marquant, alors il y a la solution de facilité qui dirait la levée de fonds, mais il y a, je pense, le mois qui me dit là le team building qu'on a fait avec les équipes. C'était notre premier team building qu'on a fait il y a 2 mois. Et en fait, là, je suis dans une phase de l'entrepreneuriat où en fait je kiffe aller au bureau parce qu'on a des équipes de fous, et on en parlait un petit peu, et des équipes qui évoluent avec nous, qu'on fait évoluer, et le team building, c'est vraiment le moment où j'ai pris conscience de, au-delà du projet produit, réponse consommateur, etc., il y a le projet interne où il y a les équipes. Et en plus, on n'emploie pas que des cadres parisiens. On a un labo de transformation en Auvergne, donc on emploie aussi des ouvriers pour qui c'est pas simple de trouver du travail, qui ont des situations qui sont pas toujours évidentes. Et ce team building, en fait, c'était 2 jours où il y avait une alchimie entre tout le monde qui était incroyable. Et en fait, on a un super équilibre entre ok, on est là pour taffer, on est là pour aller obtenir cet objectif, que ce soit au lab à Vichy ou à Paris avec les équipes commerciales et marketing, et malgré tout bah en fait on est aussi là pour prendre du plaisir tous ensemble, on est aussi là pour se marrer, et on est aussi là pour partager des moments. Je pense que le team building, ça a été un achievement aussi un peu managérial, et on en parlait au début, où je pense que je me suis dit en fait on commence à être pas trop mal sur la partie management, on a des bonnes équipes, il faut aussi savoir se flatter un peu et se dire
Exactement.
Que c'est aussi grâce à nous, donc ouais, je dirais ça.
Puis la partie équipe, c'est quand même quelque chose d'ultra précieux, il n'y a pas de boîte sans équipe, c'est
Exactement,
évident,
ouais.
Et du coup ouais, je comprends totalement ce que tu m'as dit. On passe à l'avant-dernière partie du podcast sur les rencontres, le mindset et l'entrepreneuriat, avec des questions un peu plus génériques. La première, c'est est-ce que tu peux me parler d'une rencontre qui a marqué ton aventure? Je sais que des rencontres, il y en a forcément plein, mais est-ce que tu peux m'en parler d'une en particulier?
Ouais, carrément. Ouais, effectivement, il y en a plusieurs. bah, en vrai, je vais t'en parler de deux qu'on, je pense, dont une qui a vraiment structuré notre business, c'est quand même Elsa, qui est encore là, hein, au quotidien, qui nous accompagne et qui est toujours hyper précieuse, qui est plutôt sur la partie marketing communication, donc qui est moins en relation avec moi, mais moi aujourd'hui à tous les événements on me dit putain les gars on vous voit partout, votre communication elle est dingue, et c'est grâce à toutes les équipes et aussi grâce au feedback hyper précieux que Elsa a pu nous dire. Et ensuite il y a un entrepreneur qu'on a rencontré qui est investisseur maintenant chez nous, qui s'appelle Guillaume Reveillac, qui a monté une boîte qui s'appelle Cerelia, qui a bootstrappé une boîte dans l'agroalimentaire, en gros qui fait 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires en 35 ans, qui est hyper solide qui est hyper accessible. On avait fait notre rendez-vous de post-levée de fonds pour rassembler un peu tous les investisseurs. Il s'est déplacé, il est venu en personne, il était ravi d'être là, il a dû partir 10 minutes avant, il s'est fondu en excuses devant tout le monde. Et en fait, ce mec, il a construit une boîte, il a des usines partout dans le monde, il fait du gros business avec l'Amérique du Nord, et en fait il a une humilité et une accessibilité et cette volonté d'aider, d'accompagner et de s'intéresser aux jeunes et aux petites boîtes qui est assez folle, j'admire vraiment cette personne pour ça, quoi.
Ok, trop cool. C'est quoi le plus important selon toi dans le fait d'entreprendre ?
Ouais, la remise en question. C'est en fait, moi je suis un éternel insatisfait. Ce qui fait que parfois mon gros défaut, c'est que je peine à fêter les moments de les achievements, les moments hyper sympas, parce que je suis déjà sur le what's next, quoi.
Ce qui est en même temps un avantage, ouais, et un inconvénient.
Exactement. et malheureusement, on est un peu tous les trois comme ça avec Raph et Thierry.
Donc,
ouais, c'est ça. Merde. Donc, on essaye quand même de se poser pour fêter ces grosses parties-là qu'on passe. Mais effectivement, en fait, je suis toujours dans cette volonté d'évoluer et cette volonté de progresser en tant qu'homme et aussi au niveau pro. Donc, dès que je fais quelque chose, je me remets en question sur soit comment j'aurais pu mieux le faire, soit qu'est-ce que j'ai bien fait qui va pouvoir me servir pour d'autres aspects de mon business. Et l'entrepreneuriat, c'est une perpétuelle remise en question. Demain, si en 2025 on fait 10 millions d'euros de chiffre d'affaires et qu'effectivement il y a Danone et Nestlé qui font des produits au sirop d'acone, en fait, comme ça, tu peux aller à la cave du jour au lendemain. Si t'as pas cette capacité à prendre un peu de recul et à te dire que rien n'est acquis et tout n'est que perpétuelle remise en question, alors il faut pas non plus trop se remettre en question parce que sinon ton business il change tout le temps et t'arrives pas à aller au bout des choses. Mais je pense que, et notamment ça va venir avec le succès, s'il y a succès, il faudra continuer à se remettre en question, à se faire challenger, et ça va aussi du coup avec les gens qui t'entourent, pas hésiter à se faire rentrer dans l'art. Alors c'est pas forcément hyper agréable, mais c'est ce qui te permet de pouvoir accéder à cette remise en question qui est précieuse.
Ok, trop cool. Il me reste deux petites questions pour cette partie et ensuite on passera à la question finale. Comment est-ce que ton entourage vit ton aventure entrepreneuriale ?
Ils sont, je crois qu'ils sont ultra, ultra, ultra contents, ultra fiers de moi. Que ce soit mes parents ou mes amis d'enfance, en fait, ce qui est assez fou avec mes amis d'enfance, c'est que je suis le seul vraiment à être parti de Vichy, à être parti de la montagne bourbonnaise, ça s'appelle Châtel-Montagne, pour aspirer à quelque chose d'autre. Et donc, en fait, c'est moi, tous mes potes, ils bossent chez EDF, ils bossent en pharmacie, etc., etc. Et en fait, j'avais un peu une crainte quand je rentrais au début, c'était qu'on me dise, ah putain, t'as changé, ouais, putain, ça y est, depuis que t'es à Paris, ouais, ça y est, depuis que machin. Et là, d'autant plus, parce qu'en plus, parfois, je poste des stories où je suis dans des lieux assez incroyables. Et en fait, j'ai jamais ressenti une once de jalousie, une once de... En fait, c'est que de la bienveillance. Et déjà, tout le monde nous a accompagnés dans cette année où on se cherchait un peu. Et tout le monde était ultra positif en nous disant, non mais attendez, quoi qu'il arrive, de toute façon, ce que vous faites, c'est ouf. Et donc, ils nous ont aider à nous pousser, à nous repousser. Donc ça, c'est mes potes. Et mes parents, ils sont tellement supportifs. Ils nous ont aidés sur tellement de points. En fait, Thierry, c'est le meilleur ami de mes parents. Donc en fait, on s'est retrouvé à faire des prods dans la cuisine de mes parents. Enfin, en vrai, on les a saoulés, je pense un max. Quand il fallait nous prêter des véhicules, ils nous ont prêté des véhicules. Enfin, vraiment, on a une chance de dingue parce qu'on a été confronté à des personnes hyper dévouées, moi, que ce soit au niveau de mes potes, au niveau de mes parents, et qui ont toujours été là pour nous filer le petit coup de pouce qui nous a permis de passer un step quand il y avait des moments difficiles. C'est les premiers qui sont allés sur Ulule pour acheter les produits. Il y en a qui se sont déplacés d'Auvergne pour venir à notre soirée de lancement à Paris, etc., etc. Donc non, je crois qu'ils sont assez fiers. Moi, je suis toujours trop content de les revoir, de retourner dans mon Auvergne natale. Et quand j'y retourne, pour le coup, on en parle assez peu parce que je pense qu'on est assez pudique là-dessus, mais c'est ouais, en tout cas je le vois dans leur regard, et en fait notre relation n'a pas changé d'un poil depuis qu'on est enfant, et ce qui est précieux, ouais, et ce qui te permet aussi quand tu sors de Cannes, de soirée où en fait parfois c'est un peu la course, je pense, à qui montre le plus, qui a les plus gros biscottos, etc. Bon, en fait tu te dis ok, là je suis dans un endroit confortable et juste je profite de ces personnes là qui, quoi que je fasse, en fait, seront toujours là pour moi.
Ouais, ça c'est hyper hyper important dans une aventure, ouais, entrepreneuriale. Alors je suis désolé d'avance de cette dernière question mais comment est-ce que tu relis le pro et le perso, surtout quand on entreprend en couple? Désolé.
Nous en fait on distingue vachement les deux. Moi aujourd'hui, mon rôle dans la boîte, je suis surtout sur la partie commerciale, levée de fonds, donc je suis quand même beaucoup en déplacement, pas tout le temps au bureau, et en fait on a des scopes qui sont assez séparés. On se demande des conseils, mais par contre si l'un ou l'autre ne suit pas le conseil qu'on lui a donné, on va pas se vexer, et en vrai tout ça c'est quand même surtout une histoire d'ego. Et donc on essaye de faire la part des choses. Si tu viens au bureau, tu peux rester une semaine au bureau, tu sauras pas qu'on est en couple. Si du coup dans les événements toi t'as pu nous voir, on montre pas qu'on est en couple, parce que ça nous permet aussi de conserver notre couple. Et en vrai, quand on rentre chez nous, on est des nounours, quoi. Mais parce que en fait on s'est pas vu en tant que couple pendant toute la journée. On s'est vu en tant qu'associé pendant toute la journée. Et moi, peu importe dans les milieux dans lesquels je suis, et je sais pas si la prochaine fois que je te reverrai, quand je parlerai de Raphaëlla, je parlerai de ma copine ou de mon associé. Mais dans quasiment 100% des cas, quand je suis dans un milieu professionnel, même avec nos investisseurs qui le savent, je parle avant tout de mon associé et pas de ma copine. Et donc, ce qui fait que, alors, notre boulot, c'est quand même toute notre vie. On essaye de mettre des règles qu'on tient pas toujours. La règle, c'est on évite de parler des sujets stressants quand on n'est pas au travail, pour éviter de partir dans un débat ou dans un conflit ou dans machin, alors il y en a un des deux automatiquement qui a pas envie de parler de ça. On s'y tient pas toujours, mais je pense que ça nous a aussi fait évoluer en vrai en tant que couple, et on arrive à trouver des moments et on les provoque où on met le boulot de côté. Et pour le coup, là, c'est vraiment un moment qui est dédié plutôt au couple, mais on fait ça parce que effectivement notre crainte, c'est que un jour le couple d'entrepreneurs passe avant soit le duo d'associés, soit avant en fait juste le couple. Et je pense que nous, notre pire anxiété, c'est qu'un jour effectivement il y a un article qui sorte le couple entrepreneur, ouais, machin, etc., tu vois. Alors en vrai,
couverture de Forbes
par exemple, ouais. Mais ça serait sûrement très bien pour le business, et en vrai ça nous poserait pas trop de problèmes. Mais en fait, c'est que le jour où t'as un obstacle, je pense que tu regrettes.
Clairement, c'est une très bonne réponse. C'est hyper intéressant, tu vois. Ce sera ma seule question sur le sujet, mais du coup, je trouve ça très intéressant, et je pense que ça va intéresser aussi des gens qui potentiellement se posent des questions, ou même qui entreprennent déjà en couple.
Ouais, il y a pas de règle en fait. Tu vois, si tu nous avais dit il y a 4 ans, est-ce que tu entreprendras avec ta copine, l'un ou l'autre, je t'aurais dit mais jamais de la vie, quoi. Et en fait, il y a pas de règle, il y a pas de vraie réponse, il y a pas de vraie vérité. Les choses évoluent. Peut-être qu'à un moment, il y a Conenco, ça s'arrêtera. Soit qu'on remontera un business ensemble, soit qu'on remontera un business chacun de notre côté, et il y aura pas de problème. C'est une expérience dans notre vie qui a structuré notre vie chacun de notre côté, qui a aussi structuré notre vie de couple, et du coup ouais, non, ça, en tout cas c'est un kiff au quotidien, quoi.
Ouais, j'imagine. On va pouvoir passer à la dernière partie, yes, du podcast, avec quelques petites questions rapides. Évidemment, à chaque fois t'as le temps d'y répondre. La première, c'est qu'est-ce que tu fais pour aller mieux?
Je fais du sport. Et je vois mes potes. J'ai besoin de me vider la tête et c'est pas toujours facile à Paris. C'est pour ça un peu d'ailleurs qu'on réfléchit un peu à partir de Paris. C'est parce que moi, comme je te disais, quand je faisais du sport, je sortais, j'allais courir 10 ou 15 bornes. Là, t'es obligé, si tu veux pas courir dans les pots d'échappement, soit d'aller au Bois de Boulogne, soit d'aller sur les quais. Donc c'est un peu plus compliqué. Malgré tout, j'essaye de me tenir assez 3-4 fois de sport par semaine parce qu'en fait, sinon je suis chiant. Je le vois, hein, je suis aigri. J'ai besoin de me dépenser. Moi, je suis un animal social. Je pense que c'est un peu un défaut aussi parce que du coup je peine parfois à me retrouver seul et j'ai toujours besoin d'être entouré, de voir mes potes, de voir les personnes que j'aime et c'est aussi ce qui me permet de penser à autre chose qu'au taf quoi. Donc ouais, c'est les deux que j'essaye parfois de rassembler mais que...
Ouais, je comprends. C'est quoi ton plus grand rêve?
Pro ou perso? mon plus grand rêve, en vrai, sur le pro, mon plus grand rêve, c'est que Yakonenko cartonne et qu'en fait, on arrive à faire de la marque Yakonenko un vrai. On est vraiment presque en train d'essayer de construire un label de marque. Où nous, notre objectif, c'est effectivement, je te parlais des industriels, mais ce qu'on leur vend aux industriels, alors j'ai pas le droit de citer de nom, mais par exemple, imaginons Lu, c'est que Lu, s'il crée une gamme au sirop de Yakon, il crée potentiellement une gamme au sirop de Yakon qui soit Lu by Yakon & Co, et que du coup, nous, on lui emmène cette crédibilité, cette légitimité sur le sujet du sans sucre, parce qu'aujourd'hui on est la start-up en France qui est leader sur ce sujet-là, qu'on lui emmène aussi notre savoir-faire sur le digital, et c'est des gros leviers de croissance pour les industriels de l'agroalimentaire, et donc on est en train d'essayer de faire de cette marque Yakon & Co un véritable label de qualité. Avec du coup effectivement des produits Yakon & Co, des produits potentiellement et idéalement en co-branding, et ce qui nous permettra de faire tourner nos usines, de faire tourner nos associations de producteurs et potentiellement à terme d'avoir des usines qui fabriquent du sirop Yakon un peu partout dans le monde pour tous les marchés, pour que le sirop Yakon se retrouve dans le placard de tous les consommateurs, et qu'en fait le consommateur, et ça c'est des messages qu'on a tous les jours, puisse continuer à se faire plaisir sans cette culpabilité ou sans se dire ah putain attends, est-ce que c'est cancérigène, est-ce que ça va me fusiller le foie, est-ce que si, est-ce que là, et on reçoit pour le coup des messages tous les jours de personnes qui nous disent moi j'étais assez extrême dans ma pratique où j'avais arrêté de consommer quoi que ce soit de gourmand parce que j'ai des problèmes de santé, et là en fait effectivement avec le sirop Yakon j'ai pu retrouver ce plaisir là j'ai fait le même audit que j'ai fait avec toutes les alternatives au sucre, et effectivement ça coche toutes les cases, donc j'ai pu y aller en toute tranquillité, et donc on commence à bien réussir à le faire en France, mais bien évidemment les ambitions sont mondiales parce que les enjeux sont mondiaux
clairement.
Donc ouais, non, c'est que Yakon & Co soit au niveau monde reconnu pour le sujet du sucre, quoi.
Ok, en tout cas je te le souhaite. L'autre question à l'inverse, c'est quoi ta plus grande peur?
Alors je suis pas un mec anxieux, moi.
T'as l'air très chill quand même.
Ouais, non mais c'est...
T'as l'air beaucoup trop zen.
Alors je suis stressé, hein. Je suis stressé mais je suis pas anxieux, et en fait aujourd'hui, quoi qu'il arrive, cette boîte, c'est un succès. Et ça, c'est un succès personnel, professionnel. C'est pas encore un succès financier, mais est-ce que c'est l'objectif? J'en suis même pas si certain. Mais en fait, ce que je me dis, c'est que quoi qu'il arrive, c'est un succès. Quoi qu'il arrive, on fait tout et on a tout fait pour l'emmener là où on veut l'emmener. Il y a peut-être des facteurs externes qui font que demain, on va aller à la cave. Donc oui, la plus grande peur, c'est qu'on aille à la cave et qu'on y aille un peu salement pour X ou Y raison, pour un scandale sur je ne sais quel truc, ou alors un lobby qui vient nous détruire, tu vois. Quoi qu'il arrive, je pense que j'aurai quelques mois où je pense que je serais quand même pas bien, mais où en prenant du recul je me dirais attends, c'était quand même ouf, t'as tout fait, une fois de plus, what's next, quoi.
Ouais, ok, très clair. Est-ce que t'as un livre à me conseiller?
Ouais, j'en ai plein. Je lis beaucoup depuis que j'entreprends. Je lis beaucoup. J'ai passé une première année et demie où en fait je tournais dans mon lit jusqu'à 2h du matin parce que ça cogitait. Et là, je lis maintenant avant de m'endormir parce que ça me permet vraiment du coup de couper mon cerveau avant de m'endormir. Et donc en livre business, j'ai lu la biographie de Bernard Arnault qui est assez cool, biographie non autorisée. J'ai plus le nom en tête. passe, mais qui fait un peu flipper quand même aussi sur le personnage.
Je l'ai pas lu, mais j'imagine.
Ouais. mais par contre, qui est assez dingue parce que le mec a construit un empire en très peu de temps. Donc ça m'a quand même vraiment passionné. Et en livre, en roman, pour vraiment te sortir ou plus livre des vacances, il y a un livre qui s'appelle Nous rêvions juste de liberté, qui est de Charles van der Bruck, quelque chose comme ça.
Le titre me plaît.
qui est l'histoire de quatre amis qui grandissent ensemble dans le fin fond des États-Unis, qui finalement se trouvent une passion commune pour la moto et en fait tout est autour de cette histoire d'amitié qui à la fin se délite et qui tourne bien mal et je vais pas te spoiler à la fin mais en tout cas qui suis un animal social m'a vraiment happé quoi.
Ok. Super, bah écoute, je note la reco. De toute façon, on mettra aussi les liens en description. Est-ce que t'as un film ou une série à me conseiller?
Moi, j'aime bien toutes les séries sur les sportifs où tu te plonges soit dans le quotidien de sportif, soit dans le quotidien d'équipe. Pareil avec effectivement les chanteurs. J'ai regardé celle de Robbie Williams sur Netflix.
Ah, j'ai pas encore vu.
Ouais, qui est assez dingue parce que pour le coup, en plus, c'était complètement nos générations.
Un grand fan de Robbie Williams.
Ouais.
Personne ne le sait, mais
et voilà.
J'avais sorti un album.
Spoiler alert. et du coup en fait t'as aussi il essaye pendant toute sa vie de trouver cet équilibre entre l'ultra fame et le fait d'avoir en fait une vie relativement normale mais qui est finalement assez impossible et qui du coup sa vie normale se trouve en vie très solitaire et j'aime ouais c'est une série que j'ai beaucoup aimé et j'aime bien me plonger dans le quotidien de ces gens-là. Alors ça peut paraître un peu intrusif, c'est aussi pour ça d'ailleurs que j'aime bien lire des biographies, c'est parce que je trouve que c'est des personnes qui sont toujours assez inspirantes et en fait ça te permet aussi de comprendre leurs failles et de voir quelles sont leurs failles et comment ils ont fait pour les traiter quoi.
Clairement, et surtout sur ce genre de format tu retrouves très souvent des similitudes.
Ouais.
Et du coup ça permet de connecter avec pas mal de sujets et même justement à t'inspirer aussi toi-même et je trouve ça très très cool. Il y en a de plus en plus ces dernières années, donc franchement la dose d'inspiration elle est
Netflix ils sont très chauds là-dessus Netflix.
Exactement. J'ai rajouté une question cet été qui s'appelle la question reverse.
Ok.
Tu prends le rôle de host pour une seule question et cette question c'est elle est très simple. Y a-t-il une question que tu souhaiterais me poser?
Ouais grave. Qu'est-ce qui te rend le plus fier dans ce que tu fais, dans ton boulot, dans le fait de rencontrer des personnes? Je suis curieux de savoir un peu, d'aller au plus profond et de savoir ce qui te rend le plus fier. Ouais.
Je pense qu'il y a plusieurs typologies de fierté, entre guillemets. Je pense que la première, c'est d'avoir démarré de zéro, tu vois, avec des parents fonctionnaires, aucun entrepreneur dans mon entourage.
Ouais.
Tu vois, d'avoir réussi à construire quelque chose de solide, tu vois, en termes d'écosystème, créer des amitiés fortes aussi avec certaines personnes, créer des connexions business aussi pour d'autres. Du coup, ça, je suis très fier, tu vois, ça va faire 6 ans en décembre 2023. Donc, 6 ans de taf pour arriver là où on est aujourd'hui. Donc, c'est pas rien. Parce que clairement, les enjeux des podcasts, c'est de la récurrence, la qualité du contenu, continuer à monter en puissance. Et ensuite, la fierté sur les rencontres. Moi, ce que je considère le plus important, c'est un peu creuser ce qu'il y a dans le coffre des entrepreneurs, tu vois. Sur le côté vraiment humain, ce qui m'intéresse, c'est l'aventure humaine. C'est pas les chiffres, c'est pas les levées de fonds, c'est pas les millions derrière certaines boîtes. Et d'ailleurs, j'en parle quasi jamais, ou très rarement. C'est vraiment qu'est-ce qui a fait que la personne s'est retrouvée là où elle est aujourd'hui, tu vois.
Ouais.
Et en fait, c'est aussi ça qui intéresse mon audience. Ce qui est cool, c'est que les sujets qui m'intéressent aussi intéressent mon audience. Et du coup, ça crée quelque chose de très vertueux.
Ouais.
Et qui au final, moi, je prends énormément de plaisir à faire des podcasts comme celui qu'on fait actuellement. Je prends beaucoup de plaisir à creuser des conversations qu'on n'aurait pas forcément peut-être sur des événements ou dans d'autres lieux. Et creuser des conversations profondes avec n'importe qui. C'est ça aussi l'objectif.
Ouais.
C'est pouvoir rencontrer n'importe quelle personne et créer des conversations qu'on n'aurait pas n'importe où.
Ouais, de tous les milieux, c'est ça voilà. Dont on parlait aussi.
Exactement.
Ouais. Ok.
Tout simplement.
Et du coup, toi, c'est quoi tes gros objectifs
Mes gros objectifs, ça va être d'être de plus en plus mainstream sur le podcast. Dans quel sens, vis-à-vis de la typologie des invités du podcast, même si on a commencé à le faire depuis quelques mois, c'est de représenter vraiment l'entrepreneuriat au sens large, ce qui était l'objectif de départ. Mais du coup, justement, d'aller vraiment tamponner cette mission en allant chercher aussi bien des athlètes, des artistes, des personnalités, des gens en fait qui font des trucs. Et à partir du moment où tu fais des trucs, t'es entrepreneur. Ouais. T'as pas besoin de lever des fonds, t'as pas besoin de faire des millions. Le fait d'entreprendre, c'est un état d'esprit. Et c'est ça que je vais aller chercher encore plus, encore plus profondément. Et toujours en améliorant la qualité des formats, en créant aussi peut-être d'autres formats, peut-être table ronde avec des entrepreneurs qui se connaissent pas, mais qui vont créer aussi, tu vois, des choses assez cool et des conversations assez cool. C'est ça l'objectif avec Serial. C'est l'objectif, il est très simple et clairement, on a une roadmap assez claire par rapport à ça.
Trop bien.
Voilà.
Je suis ravi de t'avoir su dans mon podcast.
Avec plaisir. Il faudra trouver un nom, par contre. Il me reste deux petites questions.
Ouais.
Est-ce que tu as une ou un entrepreneur à me conseiller pour un futur épisode ?
Il y a effectivement ce sportif dont je te parlais, Axel Toupane. Tu me disais que tu souhaitais te diversifier et j'étais assis à côté de lui à un dîner la dernière fois, qui est un basketteur pro qui a fait 4 ou 5 ans en NBA et qui à côté de ça est en train de monter un fonds d'invest.
Qui a joué en équipe de France aussi.
Qui a joué en équipe de France, ouais. Et son père entraîne les féminines aussi de l'équipe de France. Donc assez assez remarquable, ouais. C'est pas un entrepreneur.
Très clairement,
c'est un entrepreneur. Désolé.
Ok, je note la reco. Et ma dernière question que je pose sur la totalité de mes épisodes, c'est quoi pour toi un entrepreneur ?
Ouais, je suis hyper aligné avec toi en fait, moi. J'attache beaucoup d'importance à ce mot « faire ». Toute ma vie, j'ai fait des choses. Alors, je suis pas l'entrepreneur qui a vendu des Game Boy dans la cour du collège, mais par contre, j'ai toujours fait des choses. Et en fait, ce que j'essaye de dire à tout le monde, c'est en fait « faites ». Et peu importe quoi, peu importe comment, essayez, et c'est ce qui va vous permettre petit à petit d'aller vers quelque chose qui vous passionne. Je crois que t'es la première personne qui vraiment insiste sur ce mot faire, que t'es la première personne que je rencontre qui insiste sur ce mot-là. Et pour le coup, je crois que j'en parle quasiment à chaque fois que j'interviens quelque part. Parfois, je retourne aussi à l'ISCOM faire des petites conférences sur l'entrepreneuriat. Faites des conneries du coup aussi et en fait au fil de l'eau vous allez tirer un fil de tirer vous allez vous rendre compte qu'il y a un truc de dingue au bout de ce fil. Ce sera effectivement peut-être une entreprise, peut-être une association, peut-être un club de musique, peut-être un club d'échecs, enfin tu vois, j'en sais rien, mais par contre ce sera quelque chose d'entreprenant et qui sera lié à ce que vous avez fait, et donc en fait la boucle est bouclée, quoi.
Ouais, écoute, ce seront les mots de la fin du podcast. J'espère que ça t'a plu.
Ouais, c'était un gros plaisir. Merci beaucoup pour l'invitation.
Avec grand plaisir, c'était très cool. J'ai bien kiffé cet échange. Et puis du coup, j'en ai appris beaucoup plus sur ton aventure. Ouais. J'espère que toi qui nous as regardé et écouté, ça t'a plu aussi. On mettra tous les liens de Clément en description. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite ? Un maximum de kiff. Et je pense que le reste, finalement,
ça suivra.
Déroulera. Merci beaucoup, Clément.
Merci beaucoup.
Salut.